Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Aujourd'hui, E comme extraterrestre, ou M comme Mars, ou encore N comme Neptune, ou plutôt N comme nouvelle, et V pour vie. Un peu confus ? Pas du tout. Enfin, je l'espère. Il y a quelques semaines, j'avais consacré deux émissions au prix Annie Ernaux, organisé il y a une vingtaine d'années par la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Le prix Annie Ernaux, bien avant que notre écrivain valdoisienne, elle habite toujours Cergy, bien avant qu'Annie Ernaux n'obtienne le prix Nobel le 8 octobre dernier, il y a exactement 2 mois. Deux émissions spéciales de rendez-vous compte au cours desquelles plusieurs lecteurs avaient lu leur propre texte primé ou le texte de l'un des concurrents. Aujourd'hui, Clémentine Mougel, lycéenne en classe de première, nous lit le texte d'Émilie Buaillon, texte qui avait remporté le premier prix de la section jeunesse du prix Ernaux en 2003. Un texte en forme d'appel au secours, un appel au secours lancé par une adolescente aux habitants de Pluton, Mars ou Neptune, peu importe, pourvu qu'ils viennent la chercher et l'emmènent dans leur planète, là où, à la différence de la Terre, règne l'amitié, la tendresse, la fraternité. En tout cas, un texte magnifique auquel Clémentine a su rendre toute sa puissance et toute son émotion. Merci Clémentine.
Puis-je vous appeler extraterrestre ? Non ? Martien ? Non plus. Peut-être habitez-vous Pluton ou Neptune ? Alors, laissez-moi dire, amis. Chers amis, si vous trouvez mon message, mon appel au secours, si c'est vrai que vous existez, que vos recherches privilégient la santé plutôt que les armes, alors... venez me chercher. Ici, la guerre a encore éclaté. Les corps tombent sans vie. Les cris résonnent, les enfants pleurent à présent, orphelins. Il pleut des bombes, le tiers de la population ne respire plus. Les adultes se battent pour des opinions politiques, des couleurs de peau ou juste pour un terrain. Ont-ils oublié qu'ils avaient été des enfants avant d'être des grands ? Grands, c'est ainsi qu'ils se qualifient. Mais le mot traître conviendrait mieux. Avant, ils rêvaient d'avoir des amis de toutes les couleurs, des amis du monde entier. Ils rêvaient d'être solidaires et lumineux. Maintenant, ils sont solitaires et sombres. Blancs à l'extérieur, mais noirs à l'intérieur. Ils manquent sincèrement d'amour. Vous savez, ce sentiment si précieux. Je vous en prie, chers amis, venez nous aider, éclairez-les sur le bon chemin. Faites arrêter ce gâchis. Vous, ils vous écouteront peut-être, car ils disent que nous, nous sommes... trop petit pour comprendre. Tu parles. Nous restons assez grands pour voir que ça ne va pas, que rien ne va, que notre avenir en dépend, et pas le leur. La vie d'ici me dégoûte. La Terre est bien petite, mais l'univers est immense. Alors pourquoi ne pas nous réunir ? Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières plus loin que l'horizon, plus loin qu'une barrière en bois qui nous empêcherait d'avancer ? Pouvoir apprécier un coucher de soleil sur la mer, main dans la main, sans qu'une bombe ne fasse rougir l'astre d'or, sans que larmes et sang jaillissent à nouveau. Pour que nos mondes soient des rêves, il faut le vouloir. Et vouloir, c'est pouvoir. Je ne sais plus qui disait cela, sûrement un adulte au cœur de gamin. Pour que nos mondes soient des rêves, il faut le vouloir. Si c'est vrai que sur votre planète lointaine, vous vivez d'harmonie, que votre philosophie est d'aimer, que chacun a le droit à la parole, que chacun mange à sa faim, alors venez me chercher. Si vos différences sont une richesse, si vos paysages ne sont ni dégradés ni pollués, alors... venez me chercher. Je rêve d'un monde uni, sans cris, sans souffrance. Alors, venez me chercher. Je rêve d'amitié, de tendresse et de fraternité. Alors, venez me chercher. Vous me reconnaîtrez facilement. Seul, je vagabonde. Seul, je m'inonde de pensées et d'espoir. Et un jour, un rayon de lumière... viendra me trouver.
Vous êtes bien sur IDFM 98 à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré, pour une fois, à 2 lettres, N et V, N comme nouvelle et V comme vie. Ouais, on voyage aujourd'hui entre les astres à la recherche d'une vie nouvelle, d'une vie meilleure. Meilleure, c'est à voir. Dans son texte si bien lu par Clémentine, la jeune Émilie Buaillon, premier prix de la section jeunesse du prix Ernaux 2003, Émilie en appelle aux Martiens et aux autres amis des autres mondes pour la sauver de la violence et de la barbarie des humains. Eh bien, cela m'a rappelé une bien étrange histoire, étrange et pourtant parfaitement réelle. L'histoire de la porte du ciel. Si vous préférez, Heaven's Gate. Heaven's Gate, une secte dont un documentaire du magazine Brut nous raconte l'histoire.
Heaven's Gate est la première secte de l'ère Internet. Vous prenez la Bible, vous prenez les extraterrestres, vous prenez Star Trek, de l'ésotérisme et du complotiste, et vous avez Heaven's Gate.
Heaven's Gate, une secte donc créée dans les années 1970 par Marshall Applewhite et Bonnie Nettles, son infirmière et compagne de cœur. Moment clé qui change leur vie à jamais, une illusion mystique dans un camping en forêt, au bord d'une rivière. Il fait beau, ils sont amoureux, tout va bien. Soudain, ils comprennent qu'ils sont les prophètes de l'Apocalypse. Ouais, capables de vous ouvrir les portes du paradis si vous suivez leurs règles. Alors ils partent sur les routes. Ils cherchent, et bien entendu, recrutent des adeptes. Leurs croyances, une combinaison d'éléments de la doctrine chrétienne et des concepts de science-fiction, tels les voyages dans le temps ou dans d'autres dimensions. À la fin de l'année 1975, les deux fondateurs de la secte donnent une conférence dans une petite ville côtière de l'Oregon, aux États-Unis. Leur discours fascine tellement la foule qu'une vingtaine de personnes les suivent, abandonnant leurs biens et leurs proches. Le phénomène étrange obtient une attention nationale quand le présentateur d'une émission de CBS évoque la disparition inexpliquée de ses nouveaux adeptes. Je cite, « C'est un mystère et l'on ignore s'ils sont partis dans l'espace ou s'ils ont été enlevés. » En réalité, Applewhite et Nettles les ont cachés dans une ferme. Et pendant les semaines suivantes, ils sont rejoints par une centaine de membres dormant dans des tentes dans les campings de la région. Leur certitude? Eh bien, la Terre est sur le point d'être détruite et recyclée. La seule chance de survie? Eh bien, partir. Partir? Partir mais où? Bah, tout simplement, dans une autre planète.
Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled.
Alors que le groupe se dit formellement opposé au suicide, ses membres voient leur départ, entre guillemets, vers une autre planète, comme un passage sur le niveau suivant. Je cite toujours, un transfert d'âme. Ils ne se suicideront pas, non, non, ils partiront simplement en mission dans l'espace. Ce qui déclenche le passage à l'acte, 1977, la conviction de l'existence d'un vaisseau spatial caché dans la queue de la comète L-Bop qui se rapproche de la Terre cette année-là. La conviction aussi de l'existence d'un monolithe semblable à celui qui ouvre l'incroyable 2001 Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. Les membres d'Heaven's Gate auraient déclaré qu'il s'agissait là du signe qu'ils attendaient. Les 19 et 20 mars 1977, après avoir souscrit une assurance, je cite, « pour enlèvement par des extraterrestres », rendez-vous compte, Marshall Applewhite s'enregistre avec une caméra vidéo et évoque le suicide collectif imminent en déclarant qu'il s'agit, je cite toujours, « du seul moyen d'évacuer la Terre ». Les membres de la secte se donnent la mort du 24 au 26 mars, cocktail de barbiturique, de vodka et, tenez-vous bien, de compote de pommes, un sac plastique noué autour de la tête. La même scène se répète du 24 au 26, en trois vagues, les survivants préparant la mise en scène pour les suivants.
Il y a 39 corps qui sont parfois sur des lits superposés, parfois sur des matelas à même le sol, et ces corps sont posés sans le moindre signe de lutte, le moindre signe de combat, pas de traces de sang, ils sont allongés dans le calme, alors sur leur côté il y a des sacs de voyage, comme s'ils partaient juste en voyage, ils sont dans des uniformes noirs, qui ressemblent un peu à des kimonos. Ils ont sur eux une sorte de voile violet qui a été posé en forme de losange et qui donne l'impression que ces corps ont des espèces d'ailes. Ils ont un blason, une sorte d'écusson cousu par leurs soins où il est écrit « Away Team », équipe de départ. Détail le plus étrange, ils portent des Nike. Ils portent des Nike neuves, identiques, noires et blanches, qui donnent à la scène un air extrêmement étrange.
Logiquement, la secte disparaît avec le suicide collectif. En principe, parce que de nombreuses spéculations demeurent quant à une éventuelle activité postérieure. Dans le documentaire de Brut, Quentin Bruet-Ferréol nous précise.
Il y a les adeptes qui tiennent le site internet. Ce sont les webmasters d'après la fin du monde. Ils ont comme mission de continuer à répondre aux questions. C'est une mission qui leur a été donnée par le gourou jusqu'à leur mort. Et eux, ils tiennent jalousement toutes les propriétés, tous les secrets de la secte. Aujourd'hui, la principale existence d'Evansgate, c'est un groupe Facebook où les adeptes discutent et commémorent. Ce sont eux qui découragent les gens qui parfois les contactent en leur disant « bah moi, je me suiciderais bien pour rejoindre Tiedo ». Et c'est les adeptes d'Evansgate qui leur disent « mais non, faut pas, tu n'as pas suivi les cours ». Donc tu n'as pas ton diplôme, parce qu'ils appellent ça un diplôme, tu n'as pas ton diplôme, donc tu vas juste te tuer, et de toute façon c'est trop tard. Et donc ils sont un peu, que ce soit les webmasters d'après la fin du monde ou les autres, ils sont un peu responsables de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes, et pour le moment en tout cas, il n'y en a pas eu.
Et si nous on partait à notre tour à la recherche des membres de la secte, en mission quelque part dans l'espace? Par exemple, en écoutant Set the Controls for the Heart of the Sun, un titre de Pink Floyd, extrait de leur deuxième album paru en 1968, The Saucer Full of Secrets. Passage, petite salutation terrienne à Léo et Garance, disparu sans doute quelque part dans l'univers interstellaire. Set the Controls for the Heart of the Sun, je traduis, règle les commandes en direction du cœur du soleil, une chanson écrite par Roger Waters, à partir d'un recueil de poésie chinoise de la dynastie Tang. Vous êtes toujours bien sur IDFM 98 à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré pour une fois à deux lettres, N et V, N comme nouvelle et V comme vie. Un voyage entre les astres à la recherche d'une vie nouvelle, d'une vie meilleure. Meilleure, c'est à voir, je vous le disais. Les « avancées » entre guillemets de la science fascinent et inquiètent l'écrivain d'anticipation Pierre Bordage. Bordage qui se demande jusqu'où l'être humain pourra aller au nom du « progrès », toujours entre guillemets. Il aborde d'ailleurs cette thématique dans un recueil de 5 nouvelles où sont traités les thèmes du clonage, de l'enseignement numérique purement virtuel, de l'existence de familles enfermées infiniment dans un univers électronique. Le thème aussi de la vente du patrimoine génétique. Et c'est ce qui arrive à un certain Jérémy Quin. Ils se présentèrent à 5h du matin. Un homme, une femme, vêtus d'uniformes gris-perle. Ah, des envoyés du Nouvel Éden. Emmerdement lut-il sur leurs traits pourtant impassibles. Il avait fêté son 35e anniversaire, 4 jours plus tôt, l'occasion de faire un premier bilan de sa vie. Oh, il ne s'en était pas mal sorti, à vrai dire, pour un type qui avait perdu ses parents à l'âge de 9 ans. S'il gardait de sa mère l'image chiffonnée d'une adolescente aux cheveux flous, au regard morne et au sourire là, il avait tout oublié de son père. Il se souvenait pourtant des heures qui avaient précédé leur disparition. La nuit, les éclats de voix à travers des minces cloisons, des sanglots étouffés, les bruits de pas, la porte refermée avec douceur. Le silence retombant peu à peu sur le logement. Alors, il s'était rendormi, comme un gosse de 9 ans, débattu jusqu'à l'aube dans les cauchemars, réveillé avec un sentiment suffocant de frayeur et de solitude. Deux hommes l'attendaient dans la cuisine, vêtus d'uniformes gris. Il leur avait demandé où étaient ses parents. Sans dire un mot, il l'avait conduit dans un orphelinat de la ville basse. Là, on l'avait désinfecté, vacciné, nourri, logé, puis, comme il montrait certaines dispositions pour les mathématiques, on lui avait enseigné le métier d'être comptable. Jamais, jamais, il n'avait reçu de nouvelles de ses parents. Ni ses professeurs, ni ses éducateurs n'avaient répondu à ses questions. Plutôt bien traité, il avait parfois souffert de la solitude, surtout les nuits d'été, ces heures poisseuses où il se tournait, se retournait dans ses draps, sans trouver le sommeil. Il était donc devenu aide-comptable. même en reversant 20% de son salaire à l'orphelinat, il gagnait correctement sa vie. Assez en tout cas pour s'offrir un logement décent et inscrire sa fille dans une école réputée. Sa fille, Lisbeth, sa perle, la pupille de ses yeux. La femme en uniforme gris eut une petite moue d'impatience avant de presser une deuxième fois la sonnette. Une vague de panique le secoua de la tête aux pieds. Peut-être était-il envoyé par les services sociaux. Peut-être le jugeait-il incapable d'élever sa fille seule. Ouais, seule. En réalité, il se l'avouait, le suicide de sa femme l'avait soulagé. Dépressive depuis la naissance de Lisbeth, elle demeurait toute la journée, vautrée sur le canapé comme un phoque échoué sur une plage, les yeux rivés sur l'écran mural du salon, grignotant d'un air absent les saloperies sucrées et salées qu'elle commandait sur le web. Un soir, en rentrant du boulot, il l'avait trouvée morte sur le canapé. À ses côtés, Lisbeth finissait un paquet de chips, fascinée par la nouvelle série qu'elle regardait sur l'écran allumé constamment. Les toubibs avaient conclu à une IVV, interruption volontaire de vie par absorption massive de barbiturique. Alors, lui, il n'avait pas osé contester leur diagnostic, bien que sa femme n'eût jamais manifesté la moindre velléité suicidaire. Qui pouvait savoir ce qui se tramait dans le cerveau d'une créature réduite à l'état de larve par l'abus de graisse et d'images? Lisbeth, elle, n'avait pas souffert de la disparition brutale de sa mère. Au contraire même, la crispation de dégoût qu'elle promenait en permanence dans l'appartement s'était effacée de ses lèvres. Il n'avait pas voulu prendre une autre femme. D'abord parce qu'il s'était réhabitué très rapidement au confort du célibat, ensuite parce qu'il ne voulait pas imposer une belle-mère à Lisbeth. L'employé de nouvelle vie sonna de nouveau. Il fallut bien leur ouvrir. Monsieur Quint, il acquiesça d'un hochement de tête. Longtemps qu'on ne l'avait pas appelé Monsieur Quint, figurez-vous. Il s'effaça pour les inviter à entrer. Nous sommes venus chercher notre dû, Monsieur Quint. Votre dû ? Un sourire énigmatique s'afficha de nouveau sur les lèvres de l'employé.
Nous travaillons pour le compte de la société Nouvelle Vie. Vous connaissez la société Nouvelle Vie ?
Mais bien sûr, j'en ai entendu parler. Une boîte en biotechnologie, non ?
Monsieur Quint, la plus grosse entreprise de biotechnologie de notre planète. Elle possède 90% des brevets.
Bien content pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ?
Des brevets sur les gènes, Monsieur Quint. Les génomes. Et vous êtes directement concerné de très près par les brevets, Monsieur Quint. Vos gènes ont une particularité qui intéresse beaucoup notre société. Mutation génétique. Êtes-vous tombé malade une seule fois au cours de votre vie, Monsieur Quint ?
Mais en vérité, jamais.
Eh bien, nous en déduisons que votre système immunitaire est très performant, Monsieur Quint. Tout comme celui de vos parents, d'ailleurs. Tellement efficace, tellement performant que notre société l'a breveté. Les Nations Unies en 2023 ont admis le principe du brevet du génome humain, à condition que ce même génome présente une particularité remarquable et concourt au progrès de l'humanité.
Et dites-moi, c'est votre entreprise qui est venue chercher mes parents il y a 26 ans, n'est-ce pas ? L'homme tira une feuille de papier d'une poche de son uniforme et la déplia avec soin.
Voyez-vous, Monsieur Quint, vos parents étaient ruinés, sans ressources, sans avenir. Ils ont accepté les termes de ce contrat comme une prise en charge partielle de vous, leur fils. Alors, notre société a respecté sa part du marché.
Et eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? L'homme posa délicatement la feuille dépliée sur la table basse et la lissa du plat de la main.
En vérité, nous ne le savons pas. Ils ont été remis aux techniciens. La clause de confidentialité nous interdit d'en dire plus.
Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi si vous n'avez rien à m'apprendre sur eux, bordel ?
Monsieur Quint, vos parents ne se sont pas engagés seulement pour eux, voyez-vous ?
Bah, qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle marqua un temps de silence avant de répondre.
Vos parents ont vendu à notre société les droits de 3 générations.
Impossible, murmura Quint. Les nouveaux droits de l'homme, enfin.
Les nouveaux droits de l'homme ne signifient plus grand-chose à notre époque. Notre compagnie se réfère à l'arrêté du 13 juillet 2024. Vous avez sûrement entendu parler du procès Chalbeau, cette famille de Lyon qui contestait la validité juridique du prêt de 120 ans contracté par d'arrière-grands-parents. Il en est ressorti que les descendants sont bel et bien engagés par les contrats signés par les ascendants. Vous êtes breveté, monsieur Quint, engagé par le contrat signé par vos parents. Vous appartenez corps et bien à notre société Nouvelle Vie. C'est pour ça que le labo nous envoie vous chercher.
Pas possible. Vous n'avez pas le droit. Je ne peux pas laisser ma fille seule.
Rassurez-vous, notre compagnie prendra soin d'elle, comme elle a pris soin de vous.
Je ne veux pas, mais je ne veux pas.
Je crains que vous n'ayez pas le choix, monsieur Quint. Le labo réclame aujourd'hui votre présence. Vos gènes.
Il sauta de son tabouret et d'un geste brusque s'arracha une poignée de cheveux. « Tenez, prenez cet échantillon et débrouillez-vous avec ça. Je ne vous suivrai pas. »«
Monsieur Quint, vos cheveux ne suffiront pas. Le labo exige votre présence pour étudier vos réactions organiques à certains stimuli. »«
Je crois bien que vous essayez de me gruger de 5 ans. Regardez dans le contrat, il prévoit que vous me fichiez à la paix jusqu'à mes 40 ans. Or, je viens tout juste de passer les 35 ans. » Projetait déjà de mettre à profit ce sursis pour foutre le camp avec sa fille, gagner l'une de ces zones de non-droit où ils pourraient effacer leur piste.
C'est vrai, monsieur Quint. Cependant, le contrat prévoyait des clauses de pénalité. Vos parents, votre père en particulier, se sont pas montrés aussi coopératifs que le stipulait leur contrat. Leur attitude vous a coûté à vous 5 ans de pénalité.
Mais qu'allez-vous faire de ma fille ?
Bien, monsieur Quint, si vous vous montrez coopératif, nous la récupérerons à l'âge de 40 ans, elle, selon les termes du contrat. En attendant, elle recevra une formation de type moyen dans l'un de nos établissements.
Vous ne me laisseriez pas un ou deux jours pour préparer mon départ ? Des lueurs d'ironie dansèrent dans les yeux de ses interlocuteurs.
Votre départ ou votre évasion, monsieur Quint ? Inutile de vous faire des illusions. Nouvelle Vie, notre société possède votre trace ADN, votre signature. Grâce au satellite et à votre biopuce, nous serions capables de vous localiser, d'aller vous chercher dans n'importe quelle partie du monde, y compris les zones non couvertes par le droit international. Croyez-nous, monsieur Quint, vous avez tout intérêt à nous suivre sans faire de difficultés. Pour vous et pour votre fille. Vous n'auriez tout de même pas le cœur de la priver de précieuses années de vie ?
Un vent de colère se leva sous son crâne. Comment ses propres parents avaient-ils pu les vendre ? Oui, comment avaient-ils pu les vendre, sa fille et lui, à ces ignobles trafiquants de gènes ? La misère avait-elle effacé en eux tout sentiment, tout amour, toute tendresse ? L'espace de quelques secondes, il fut tenté de courir dans sa chambre, de se saisir du pistolet tapis dans le tiroir sous ses chaussettes, de mettre fin à cette farce absurde. Ouais, mais combien d'années de pénalité coûterait son suicide à Lisbeth ? Il n'avait pas le droit de se révolter, ce foutu contrat et ses clauses de pénalité. Alors, il s'habilla avec des gestes maladroits, dépecé déjà par les regrets, sortit de la chambre, s'avança d'une allure chancelante vers les 2 employés de Nouvelle Vie. Je suis prêt. L'homme et la femme se levèrent et l'escortèrent vers le hall. Il évita de contempler son reflet dans le grand miroir fixé au mur du palier. Lisbeth éteignit les écrans mouchards. Les deux hommes en uniforme gris étaient sortis, en laissant le dossier bien en évidence sur la table basse du salon. Réveillée par les trois coups de sonnette, elle n'avait rien perdu de la conversation entre les visiteurs et son père. Il faut dire qu'elle avait truffé les lieux de micros, de caméras, de systèmes d'enregistrement. Elle adorait Lisbeth espionner son père et ses interlocuteurs, capter leurs chuchotements, percer leurs secrets. Depuis qu'elle était en âge de comprendre, elle se doutait qu'un jour, son existence dépendrait des renseignements qu'elle aurait réussi à glaner. Sa mère s'était suicidée avoir appris par le web que leur famille était vendue à Nouvelle Vie jusqu'à la troisième génération, c'est-à-dire jusqu'à la sienne. Son père, lui, n'en savait rien. Elisabeth s'était bien gardée de le lui révéler. Elle avait eu l'idée de racheter le contrat avec l'argent récupéré sur un compte secret de sa mère. Secret, tu parles, pas pour elle. Et comme il lui manquait 50 000 euros, elle avait proposé un troc à la compagnie, sa liberté définitive, contre les 111 000 euros de sa mère et 5 années de la vie de son père. Alors, Nouvelle Vie s'était débrouillée pour transformer leur petit arrangement en pénalité contractuelle. De toute façon, aucun juriste ne fouinerait dans le dossier puisque aucune plainte ne serait déposée. Lisbeth, sourire aux lèvres, s'était enfin débarrassée de son père. Elle avait eu peur que papa se suicide dans sa chambre. Une mort prématurée qui aurait fichu tout son plan par terre. Elle avait suivi tous ses gestes sur l'un de ses écrans mouchards. Elle l'avait vu hésiter, se lamenter, pleurer. Mais le cher papa aimait trop sa fille pour prendre le risque de se révolter. Elle ne ressentait pour lui qu'une indifférence teintée de mépris. Ah, Lisbeth, elle ne s'était jamais encombrée d'émotions. Nouvelle Vie veillerait sur elle jusqu'à sa majorité. Séduite par ses talents d'informatrice et de négociatrice, la compagnie lui avait déjà réservé une place en or dans ses bureaux des cités flottantes. Lisbeth avait maintenant tout le temps de réfléchir à son avenir. Elle se leva comme d'habitude à 6 heures, s'accroupit devant la table basse du salon, ouvrit le dossier, vérifia rapidement les termes du nouveau contrat, puis, satisfaite, fila dans la cuisine préparer son petit déjeuner. Les technologies, anciennes ou nouvelles, n'ont jamais dispensé l'être humain de choix relevant de la morale. Si, pour être libre, il faut sacrifier ses proches. Et si, pour échapper à l'esclavage technologique, il faut en devenir l'un des rouages. Et d'abord, c'est quoi finalement être libre dans un monde qui ne l'est pas, un monde qui ne l'est plus? Dans cette nouvelle, ce n'est pas au diable que l'on vend son âme, c'est au contrôleur de gènes. Mais c'est un peu la même histoire, non? Alors, décidément, comme on dit, là où il y a des gènes, il n'y a pas de plaisir. Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré aux nouvelles vies que l'espace, vide pourtant, inspire aux humains, trop inquiets, trop rêveurs, trop déçus de leur existence terrestre. Pourtant, nous le savons bien, il n'y a pas de planète B. Alors, sauvons la Terre, si nous le pouvons encore. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delat sur IDFM 98. À la semaine prochaine, même heure, sur IDFM.